J'aimerais me mettre dans la perspective de Patrick de Saint-Exupéry. J'aimerais interpeller M. de Villepin, parce que je suis latino-américaniste, spécialisé justement dans les questions exotiques la transmission internationale des doctrines militaires françaises, et en particulier en Argentine, puis après dans le reste de toute l'Amérique latine. Et M. de Villepin, apparemment, dans le cadre de la politique que nous connaissons, a déclaré, du moins reste le monde du jeudi 5 février 2004, que Dominique de Villepin, je cite Christine Legrand, a confirmé que l'ancien dictateur Auguste Pinochet, 88 ans, pourrait être jugé par contumace en France pour la disparition de 5 Français au Chili pendant le régime militaire. Bien. Le ministre a nié, par ailleurs, que des officiers français aient eu des liens avec les dictatures sud-américaines des années 1970. La tournée de M. Villepin se poursuivait au Brésil mercredi et au Mexique jeudi. Alors ce que je voudrais dire, c'est que nous avons dans la salle un journaliste argentin qui a fait un DEA à l'Institut des études d'Amérique latine, que j'ai un petit peu suivi, et qui a la liste complète des officiers français intégrés en Amérique latine et en Argentine au sein de l'état-major argentin, et qui, en plus, a une très belle photo d'un très bel officier français au sein de l'état-major argentin. Et l'officier français s'appelle le colonel Servant, et le journaliste qui a fait ce travail académique à l'Institut des études d'Amérique latine s'appelle Diego Yuma, il est ici présent, et je tenais à le remercier de sa présence, parce qu'il a fait un travail remarquable de recherche, en ouvrant aussi les archives du Quai d'Orsay. Donc, M. de Villepin est dans la tradition qu'a dénoncé aussi, à sa façon, Patrick de Saint-Exupéry, et à la façon de Patrick de Saint-Exupéry, eh ben, je vais prendre aussi M. de Villepin par la main, et je vais lui montrer, mais là, par l'oreille, les discours de certains officiers français de la période de la guerre d'Algérie, et à regarder d'un peu plus près l'organisation de l'État rwandais. Et peut-être qu'il sera convaincu de la justesse et des propos de Patrick de Saint-Exupéry, et de ce qui peut être le début d'une recherche, non plus sur l'internationalisation de la doctrine militaire française des années 70, ou même des années 60, mais de la dimension transnationale du savoir-faire français en la matière. Il faut dire également qu'il n'y a pas que cette doctrine militaire française qui existe. Aujourd'hui, par exemple, elle est appliquée en Côte d'Ivoire. Il y a aussi la doctrine de maîtrise de la violence, qui est aussi une doctrine militaire française, une tentative de créer des interpositions fortes lorsque des situations de guerre civile apparaissent. Mais aussi, parfois, ces situations de guerre civile sont-elles elles-mêmes structurées autour du savoir-faire français en la matière, c'est-à-dire des doctrines de lutte anti-subversive. Donc il y a actuellement peut-être des chevauchements entre ce que la France essaye de maintenir en paix certaines régions du monde et d'anciennes doctrines tout aussi françaises qui, finalement, pousse à l'organisation de certaines formes d'État, d'escadrons de la mort, de réseau zéro, de réseau de Madame Gbagbo ou de réseau autre. Et on voit apparaître là, justement, le sujet un peu de mon interrogation, et puis essayer de partager avec vous les connaissances que j'ai pu acquérir en la matière, du moins une partie, en ce qui concerne justement ce qui s'est passé au Rwanda et la relation que l'on peut établir aujourd'hui avec les doctrines militaires françaises dites de lutte antisubversive ou de guerre révolutionnaire. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste du Rwanda. Peut-être que je vais le devenir maintenant, je ne sais pas. Il n'est pas trop tard pour essayer de bien faire, mais c'est assez compliqué. Je vais aller directement au fait. En 1964, je crois, il y a un pré-génocide au Rwanda suite à cette fameuse création de la République rwandaise comme État post-colonial, disons. Mais dans ce cadre-là, il y a un homme qui veille à l'ordre Il s'appelle le colonel parachutiste Logieste, qui déclara en 1963, et qui s'occupe de la sûreté rwandaise, pour faciliter la lutte antisubversive, il faut organiser la société d'une certaine façon, pour faciliter la lutte antisubversive. Pour quelqu'un qui a suivi un peu le fonctionnement des doctrines militaires, alors en fonctionnement, rappeler que c'est pour entrer dans un cadre de lutte antisubversive qu'il faut organiser quelque chose, ça implique que automatiquement on se réfère au savoir-faire en la matière, qui est un autre colonel parachutiste français, qui s'appelle le colonel Trinquier, et qui est un spécialiste qui a organisé le contrôle des populations dans les grands centres urbains dans la guerre d'Algérie, en particulier pendant la bataille d'Alger, mais qui a été après généralisé à l'ensemble du territoire, et ça s'appelait le dispositif de protection urbain, le DPU. Je vais vous lire très rapidement comment cette façon de travailler a été organisée. Dans un premier temps quand même, il convient de préciser que la doctrine militaire française dite de guerre révolutionnaire ou de lutte antisubversive repose sur un double système. Un système de contrôle horizontal, dit territorial, qui est celui que utilise Trinquier et a mis au point Trinquier, et un système vertical, qui est celui issu d'un système organisationnel complexe de partis politiques, d'associations, de prise en main de la population à travers des organismes spécifiques. Et on verra que, si on a le temps, le parti institutionnel rwandais joue cette fonction-là. C'est un parti État qui structure l'espace administratif, organise des réseaux spécifiques, mobilise de l'argent, paye des espaces politiques particuliers et administratifs au sein même de l'État. Donc on a affaire à un parti État dans la tradition dite révolutionnaire des structures que mettent en place les politiques postcoloniales. N'oublions pas que pour les secteurs qui ont organisé le coup d'État du général de Gaulle, on parle de révolution du 13 mai. Et que le parti révolutionnaire existe aussi au Zaïre, existe aussi au Rwanda, et qu'il y a toute une flopée de partis révolutionnaires dont la mission est de contrôler et d'encadrer les populations. C'est ce que le militaire français appelle être révolutionnaire, le contrôle des populations, à travers des structures très rigides, mais en même temps qui permettent des systèmes de mobilisation de masse rapide. Et on retrouve ce même système donc dans l'ensemble du territoire africain, comme parti institutionnalisé, et d'État, de parti État. Ceci était important puisqu'on va voir que ceci donc repose en partie sur la théorie de Trinquier et l'autre sur la partie de la théorie d'un autre officier militaire français, un grand théoricien qui s'appelle le colonel Lacheroy, qui passera ensuite à l'OS, mais je crois que c'est anecdotique. Le fait est qu'il pose comme principe cet officier de la coloniale, parce qu'il est un homme qui va former toute une série de grands constitutionnalistes français, comme Pierre Dapsy, par exemple, et qui aura son rôle en Afrique, préconise justement, sur l'expérience qu'il a eue en Indochine en 1952, d'organiser les populations sur la base de hiérarchies parallèles. Ces hiérarchies parallèles, comme je l'ai dit, c'est le parti qui organise sur la base du modèle Vietnam la jeunesse, les femmes, les enfants, avec une phrase intéressante, on appartient au parti de sa naissance jusqu'à la tombe. Et on retrouvera cette même expression au Rwanda ou au Zaïre, mais 20 ans plus tard. Donc l'expression est là, et il est intéressant de constater que lorsqu'on regarde de près le fonctionnement de ces institutions finalement calquées sur des processus de contrôle de population, Lacheroy dit en 1953, en fin de compte, il s'agit là d'établir une dictature pure, dure et cruelle. Donc, les choses sont établies, et ça va s'appeler la théorie d'une hiérarchie parallèle qui va alimenter l'ensemble du système doctrinal français jusqu'en 1959-1960, moment où cette doctrine sera rejetée par de Gaulle à l'échelle nationale. On passera à la défense opérationnelle du territoire, alors que cette doctrine était un peu articulée à la défense interne du territoire, via une notion de contrôle du territoire, mais apparemment, se mettra à circuler en Argentine, puisqu'en 1959, des officiers français participent à l'élaboration du premier plan de lutte anti-subversive à partir de l'État, c'est le plan Conintes, commotion interne de l'État, où, participant directement à l'État-major, des officiers argentins, des officiers français écrasent le premier mouvement de guérilla au nord de l'Argentine et organisent un ensemble de dispositifs qui feront que certains avocats argentins s'étonneront brusquement de voir des gens disparaître dans les régions. On retrouve des personnes torturées, des commandos spéciaux interviennent la nuit et enlèvent ces personnes, et ces personnes-là disparaissent. C'est en 1959. Cette doctrine-là, qui est appliquée localement, deviendra après doctrine d'État en Argentine. Et au partir du moment où une junte militaire formée à ces préceptes-là prendra le pouvoir en 1975-76, on l'aura en tant que pratique d'État. Le cas rwandais est intéressant, puisque c'est l'État lui-même qui va être organisé pour faire cette tâche-là, dès le début. C'est mon hypothèse de travail, peut-être va-t-elle invalidée, et j'espère qu'elle le sera, ou qu'elle donnera lieu à la discussion. C'est que, apparemment, dès 1959, puisqu'il y a eu un processus génocidaire en 1963-64, déjà on commence à organiser les populations. On commence à organiser les populations, je crois, dans certains endroits, où on rassemble les populations Tutsi, on les organise selon certains préceptes dont je vais vous donner lecture maintenant. Je voulais présenter le personnage un peu de Trinquier, puisque, à un moment, Salan lui rend visite, ils se connaissaient depuis longue date, ils avaient été ensemble dans la coloniale, dans la région du Haut-Tonkin, et Salan va le voir et lui demande à Trinquier comment faire pour contrôler les populations. Et Trinquier, Trinquier, cité par Salan, dit « Voici ce qu'il me propose. Faire entrer les habitants dans une organisation capable de conférer à la lutte contre le terrorisme en apportant des renseignements. » Je retrouve là ce que j'avais réalisé à Hanoï à la fin de l'année 1945. C'est une pratique. « Ainsi va se créer le dispositif de protection urbaine, DPU, à la tête de chaque arrondissement d'Alger, un responsable désigné recueillera des renseignements auprès du responsable habilité de chaque îlot de maison et même de chaque building. Tout habitant sera répertorié, tout étranger venant loger dans une habitation sera immédiatement signalé au commandement d'unité le plus proche, qui agira en conséquence pour faire vérifier l'identité du nouveau venu. Les anciens combattants, structure qu'on retrouvera aussi au Rwanda, nous donnent leur appui sous l'égide de M. Auguste Arnoux, leur président. Des permis de port d'armes sont délivrés aux responsables. Ce qui est très intéressant dans cette théorie, c'est que cette mise en pratique, c'est que petit à petit, il va y avoir l'établissement d'un fichier. Et comment s'organise ce fichier ? Donc, que j'ai évoqué lors d'une discussion. Voilà comment Trinquier le présente. Dans les territoires d'outre-mer, ou en période de crise, territoire d'outre-mer, la pyramide de l'organisation sera dans ce cas créée en partant de la base par les forces de police chargées du maintien de l'ordre. Les escadrons de gendarmerie mobile, rompus par métier au contact policier avec les populations, seront particulièrement qualifiés pour s'acquitter de cette tâche délicate. Ils procéderont d'abord à un recensement rigoureux de toute la population. Le premier chef de la hiérarchie à mettre en place sera le chef naturel, le chef de famille. Il sera rendu responsable de tous les habitants de son appartement ou de sa maison. Il tiendra à jour sa liste établie au moment du recensement. À l'échelon au-dessus et pendant les opérations de recensement, il sera toujours facile de désigner un chef d'un groupe de maisons ou d'un building qui sera rendu responsable d'un certain nombre de chefs de famille, 4 ou 5 maximum. Enfin, lorsque le recensement sera terminé et qu'un contact étroit sera pris avec la population, on procédera à la désignation des chefs d'îlots. Un chef d'îlot pourra, suivant le découpage de la ville, être rendu responsable d'une dizaine de chefs de groupe de maisons. C'était le système, je crois, qui était au Rwanda appliqué. Oui. Alors, il n'y aura pas d'échelon hiérarchique au-dessus du chef d'îlot. L'organisation sera en fait un tronc de pyramide dont les chefs d'îlot constitueront la petite base. Alors ensuite, je passe sur la description, mais ce qui vient par la suite, c'est le chapeautage par les structures préfectorales type, ou sinon bourgmestrienne, si vous voulez, qui sont après préconisées par Trinquine. Sur cette base-là, il dit « Le recensement de la population aura permis de donner à chaque habitant un certificat de recensement, dont un ou deux exemplaires resteront à disposition des forces de l'ordre. » Nous parlons pour la question pour l'instant. Il portera obligatoirement une photographie d'individu, mais surtout le numéro du groupe de maison, exemple 3, la lettre de l'îlot, exemple B, le numéro du quartier de la ville, exemple 2, la lettre de la ville, exemple A. L'ensemble constituera un véritable numéro minéralogique. Et bien, ce système, j'ai demandé à vérifier sur une photo, une carte d'identité rwandaise. Et ça je le redirai parce que je profite qu'il y a un député présent ici, dans les annexes de la commission d'enquête parlementaire, il y a la mission, ce n'est pas pareil. Il y a bien une carte d'identité où c'est marqué Tutsi, Hutu, Twa, et personne naturalisée. Et il y a un numéro. Or, ce numéro a été effacé. Bon. Mais quand j'ai demandé à un ami rwandais de me donner qu'est-ce que c'est, que signifie ce numéro, eh bien, ça signifie justement ce système d'îlotage. C'est-à-dire que la pratique était celle-là. Donc, il ne s'agit pas d'une création ex nihilo. Elle existe en France. La conférence que donne Trinquine à l'École supérieure de guerre, qui porte sur ce thème-là, est de 1959, un petit peu avant. Bon. Et le livre qui le comporte, analysé, s'appelle « La guerre moderne », qui sera l'ouvrage qui servira de par le monde aux pratiques de contrôle des populations à l'échelle aussi bien de Saigon, au moment du plan Phénix, que de l'opération Independencia en Argentine, et ce sera exactement le même système. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que donc nous avons affaire là à un système de contrôle déjà prévu dans son fonctionnement. À cela, maintenant, nous allons ajouter le système de contrôle vertical. Lorsque j'ai vu le fonctionnement du MDR, le MDR fonctionne selon les caractéristiques que donne la Choroi pour faire fonctionner l'ensemble des hiérarchies parallèles censées aussi contrôler de façon verticale les populations auxquelles chaque Vietnamien à l'époque, ou Viet, était censé répondre, chaque anamite aussi, de la région prochaine chinoise, il fallait aussi l'appliquer. Et c'est le même système que l'on retrouve, où on a à niveau administratif que je vous ai donné tout à l'heure, on a une cellule, une structure du MDR qui se retrouve impliquée dans l'organisation et le contrôle. Ce système lui-même contient le MDR en tant que parti, son propre système d'autodéfense. Et ce système d'autodéfense, s'appellera les interamoués ou autres structures, ont comme particularité de pratiquer le quadrillage et d'organiser le quadrillage. Or, le quadrillage entre dans les préconisations de Trinquine pour le contrôle de la population. On le retrouve comme étant un système de contrôle des villes, avec entre deux villes contrôlées, ce qu'on appelle les équipes d'intervalle ou les patrouilles d'intervalle, qui sont des patrouilles. Trinquier dit qu'il faut qu'elle fonctionne la nuit pour traquer les gens qui passent à travers le maillage, etc. Et ces patrouilles d'intervalle, Desforges, dans son ouvrage sur le génocide rwandais, en décrit le mécanisme aussi. Et il y a des témoignages sur les pratiques de ces patrouilles qui vont d'un village à l'autre, chassant le Tutsi de nuit, ou le ramenant à des lieux, à des postes organisés. Donc là, et quand on sait que le Rwanda est un petit pays, gros comme à peu près deux départements français, on voit, avec une densité de population assez importante, que peut donner un parti État armé avec des structures clandestines d'organisation, des réseaux zéro ou autres systèmes paramilitaires qui sont prévus. J'ai ici la description d'une source belge, par les renseignements belges, du fonctionnement des escadrons de la mort. Il suffit d'ouvrir aussi le livre du général Osares, pour qu'il revendique lui-même l'existence des escadrons de la mort sous le contrôle de Trinquier. Donc, il y a là un espace, normatif, parce que c'est normatif, c'est clé en main, que l'on peut proposer ce genre de structure, puisqu'elles répondent aussi à des fabriques, à des ventes d'armes spécialement affectées à ce genre de tâches. C'est un système très intégré qui fonctionne tant d'un point de vue normatif d'État et politique que d'un point de vue normatif et de fonctionnement des armes idoines qui correspondent à ce genre de type de guerre. Enfin, j'aimerais conclure, pour ne pas être trop long, que ce système apparaît comme étant une conséquence d'un errement doctrinal français immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, dès 1946-47, où le général Delattre et le colonel Beaufre ouvrent la première conférence à l'École supérieure de guerre en disant « La nouvelle doctrine doit être la doctrine de la guerre totale, c'est la doctrine de Ludendorff qui doit organiser notre réflexion dorénavant. » Et le colonel Beaufre, d'alors, d'expliquer le fonctionnement de cette guerre totale, du système de la propagande, du système de contrôle de la population, etc. etc. Le système de Ludendorff est un système très dur, qui est un système de dictature, de création animique de la légitimité par la peur, et on articule la peur comme moyen de légitimation du pouvoir politique, au moment où se déclencherait une guerre de front. C'est-à-dire que la guerre totale, c'est penser la guerre type 14-18, à laquelle Ludendorff a participé dans le troisième grand QG, et de se débarrasser de tous les traîtres. C'est-à-dire que la version politique de cette guerre, c'est d'éliminer les juifs, les communistes, les anarchistes, les socialistes, les chrétiens, les gens qui ne fonctionnent pas dans les arrières. Or, cette doctrine-là va être la toile de fond qui va mobiliser jusqu'à l'apparition de la dissuasion en France, jusqu'en 1959. Elle va organiser la réflexion militaire. Et on peut, et là je reviens en Carpentier, on peut très bien entreprendre une réflexion sur le fait de savoir si des mouvements de type FPR à un moment déterminé n'ont pas servi politiquement le déclenchement de cette doctrine qui existe préalablement à la destruction de l'avion du président. C'est-à-dire qu'on est là en France en train de parler, mais qui a déclenché ce génocide? C'est pas le déclenchement qui est important, c'est le dispositif, c'est l'ensemble du dispositif. Alors, pour conclure, avant-hier, je parlais avec un ami Père Blanc, qui connaît bien la région et qui s'occupe des migrants, qui est quelqu'un de foncièrement honnête et très ouvert, et il m'a présenté un jeune homme d'église, Zaïrois. Et je lui ai décrit le système rwandais. Il m'a dit, oh, mais c'est le même qu'on avait au Zaïre. Voilà.